Radio Grand Ciel présente Art et Histoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Laure Aveau et de Paolo Davi. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Christine Ollier qui présente Le Trop et le Trop Peu, une exposition qui aura lieu à la Maison des Arts d'Évreux jusqu'au 16 avril. Alors, je voudrais que vous nous disiez, que vous nous expliquiez pourquoi Le Trop et le Trop Peu.
Bonjour. Alors, Le Trop et le Trop Peu est une exposition un petit peu baroque que j'ai conçue autour de nos habitudes, l'histoire de nos habitudes alimentaires, oui. En présentant trois installations, trois scénographies autour de trois autrices, artistes, plasticiennes qui s'expriment dans des médias très différents, à vrai dire, puisqu'on a aussi bien de la céramique que de la photographie, que de la mise en scène ou de l'installation. Donc, sont présentes à la Maison des Arts d'Évreux donc Muriel Joubert, céramiste, qui travaille également à Sèvres. Elle est une céramiste émérite qui traverse un peu l'histoire des arts décoratifs, puisqu'elle s'exprime aussi bien sur une porcelaine qui sera de très haute volée, très haute gamme, avec tous les émaux nécessaires, que de la terre cuite ou de la terre crue directement. Donc on peut avoir un vocabulaire extrêmement divers dans une mise en scène. Là, en l'occurrence, c'est un très grand banquet. La table fait plus de 5 mètres. Ah. Et vous avez une bonne centaine, voire plus, de pièces, dont des pièces très importantes. Donc à la fois, on est dans un savoir-faire et en même temps dans un délire assez baroque de céramique qui donne vraiment l'idée d'une exubérance. C'est un banquet de fruits et légumes en même temps, donc ça parle bien de l'histoire, ça parle bien des découvertes des fruits exotiques par exemple. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez baroque. Au centre, vous avez Carole Descordes, dont les Ornais et Percherons connaissent assez bien le travail. Moi-même, je l'ai présenté dans le Champ des Impossibles l'année dernière.
Alors peut-être on peut faire une parenthèse pour le Champ des Impossibles, parce que je sais que vous allez revenir en parler, mais quand même.
On l'annoncera la prochaine fois, mais en gros, oui, le Champ des Impossibles, qui est Parcours Art et Patrimoine en Perche, reprend du service donc pour 5 semaines à partir du 7 mai prochain et va s'étendre même jusqu'à Nogent. Donc on agrandit un petit peu le parcours et vous aurez énormément d'artistes.
Alors on est très contents à Nogent parce que on n'avait pas eu cette joie de vous avoir. Et où aura lieu cette exposition à Nogent ?
Alors il y a 3 lieux à Nogent. Vous avez le 108 qui va réouvrir puisqu'il y a des nouveaux propriétaires qui vont faire une très belle galerie dans ce lieu.
C'est un très bel endroit.
Tout à fait, c'est un hôtel de maître 18e. Et donc là il y aura 3 expositions personnelles dans ce lieu. Vous avez la jeune galerie Edmund qui a ouvert l'année dernière.
Qui n'est pas loin.
Qui est à 2 pas, et la ville de Nogent qui est partenaire et qui nous confie les caves de l'Hôtel Dieu, qui est un dédale assez incroyable, donc très ancien, 16e, voilà.
Impressionnant d'ailleurs.
Tout à fait.
Et alors là, il y aura...
Là, il y aura 5-6 artistes, chacun avec une installation ou des projections, puisque le lieu se prête évidemment à la vidéo également.
Oui. Donc ça, c'était une parenthèse.
Une longue parenthèse, mais oui, tout à fait.
Mais alors, on est content qu'à Nogent le retrouve, vous veniez, parce que c'est toujours un bonheur de vous avoir.
Merci beaucoup. Ben là, il y aura Nogent, Perche-en-Ossée, Courmogis-sur-Huisne et Saint-Cyr-la-Rosière, puisque les partenaires publics sont aussi le PNR, le Parc naturel régional du Perche, et également l'écomusée qui nous suit depuis le début. Part et qui accueille à chaque fois une très belle exposition.
Oui, ça fait combien de temps que vous êtes dans le Perche maintenant ?
Ouh, ça commence à faire, ça fait 6 ans. Le premier parcours a eu lieu en 2019. Bon, après, on a eu les années Covid, donc avec une interruption l'année dernière, donc une décision au mois de juin, mais normalement, c'est en mai. Donc celle-là, c'est du 7 mai au 12 juin.
7 mai au 12 juin, et là, là pour le moment, l'exposition que vous nous présentez a lieu à Évreux.
Tout à fait.
Et donc, dans quel endroit, pour les gens qui ne connaissent pas Évreux et qui veulent
alors,
y aller?
Alors, c'est vraiment en plein centre, puisque la Maison des Arts de Solange Baudou est en plein centre, à côté de la mairie, sur la Grande Place. C'est à la fois une école municipale qui a plus de 40 ans, qui a fait, d'ailleurs, qui ont fêté leurs 40 ans, 6000 expos. Enfin, c'est vraiment un lieu de passage important et qui, grâce à Anne Jayette, sa directrice, donc présente des projets très différents. Elle m'a confié... pour trois éditions, un programme qui est destiné au grand public, mais surtout au jeune public. Donc je vais proposer de prendre des chemins de traverse plutôt que de faire des expos pour enfants, parce que je ne crois pas qu'il y ait des expos pour enfants ou pour adultes.
Oui, ça vous avez raison. Alors ces chemins de traverse, par
voilà,
contre...
Voilà, et donc l'idée, c'est à chaque fois d'avoir un contenu pédagogique et en même temps, je dirais, donner une sorte de posture un peu drôlatique, à la fois un plaisir du voir, être un peu dans la jouissance. Et je crois que le trop et le trop peu, c'est totalement ça. Puisque ça raconte l'histoire de nos habitudes alimentaires, mais du coup, ça raconte l'histoire de l'art,
oui.
Puisque, comme je vous le disais avec Muriel Joubert, on est déjà dans toute l'histoire et le savoir-faire de la céramique, du cru, du cuit, mais on est aussi dans tout ce qui est l'ornementation, l'art du baroque, l'orientalisme, on est vraiment... dans le vocabulaire céramiste, dans toute sa splendeur, et ça permet donc d'aborder tout ça. Après, on a Carole Descornes qui est photographe de studio, qui travaille, et là, pour le coup, j'ai invité son mari aussi, Sylvain Chériot, à faire une scénographie, donc à partir de pièces d'antiquité ancienne, objets et meubles. On a recréé une sorte de château, cabinet de curiosité, qui sert en fait de base aux photographies de Carole Descornes, qui sont des natures mortes. Nature morte qui retraverse un peu toute l'histoire de l'art, l'histoire
et quelle inspiration, du genre. Et quelle inspiration.
Alors, Carole est fille d'antiquaire, donc elle connaît très très bien, je dirais, sous le bout des doigts, tous les signes et tous les composantes d'une nature morte. Donc on part de Zurbaran ou de Velázquez, de la nature morte primitive qui se pose en général juste sur une table avec quelques éléments, à des compositions beaucoup plus foisonnantes du XVIIe, avec toutes les vanités, c'est-à-dire toutes les symboliques sur la vie intemporelle, mais aussi la vanité étant notre vie humaine. Donc toutes ces symboliques-là sont dans ses œuvres, et puis elle va, en tout cas sur cette exposition-là, on est aussi sur l'art XVIIIe, avec des très beaux hommages à Chardin, par
oui,
exemple.
Oui, c'est...
Et puis, on va jusqu'à... Là, nous avons, par exemple, dans la salle, une pièce avec les fameuses asperges de Manet. Donc, on traverse un peu toute l'histoire de l'art et de ce genre qui est très important. Après, sa technique photographique, au-delà de la maîtrise des lumières et de la composition, c'est aussi des tirages totalement sensationnels, puisqu'ils sont tirés d'une façon très particulière, en jet de pigments purs, ce qui donne une très grande profondeur, presque du volume, si vous voulez, aux objets. Donc là, on est vraiment dans le jeu entre les photographies qui reprennent une posture picturale et un décor qui s'alimente des objets que vous voyez même dans les photos. Donc je pense que ça fera bonheur de beaucoup.
J'ai sous les yeux une nature morte aux œufs et plats de terre.
Oui,
c'est absolument magnifique. On croirait Chardin, presque.
Absolument. Donc là, Sylvain Chériot et Carole Descornes se sont en plus amusés, parce que c'est quand même trois camions qui sont venus pour cette mise en scène à la Maison des Arts. Donc imaginez quand même un décor riche et très fourni, mais ils se sont vraiment amusés à créer donc cette ambiance-là. Et bon, je rappelle que Carole Descornes habite dans le Perche déjà depuis une quinzaine d'années. On peut voir son travail au milieu d'ailleurs des collections de Sylvain Chériot à Mortagne au Perche.
Et où à Mortagne ?
En plein centre, à côté de la médiathèque. Et ils vont, alors j'ai amené la petite carte, je vais vous la lire, parce qu'ils vont ouvrir un autre lieu, pas très loin, à Tourouve, avec une exposition de Carole. Et ça sera à partir du 30 avril, donc jusqu'au 19 juin. Il faut regarder les horaires. Ça s'appelle Maison et Forêt. Et c'est donc à côté de Tourouve, chez eux. Si vous tapez Carole Descornes, vous allez trouver fait les indications.
Alors pour nos auditeurs, épeler Descornes.
Alors Carole, c'est Carole sans E, c'est A-R-O-L. Et Descornes, c'est D-E-S-C-O-R-D-E-S. Voilà.
Très bien.
Donc là, vous allez trouver toutes les infos. Et je recommande cette expo inaugurale qui est également initiée avec un très grand décor, une très belle scénographie dans un lieu assez magique. Donc il faut aller voir. Donc à partir du 30 avril.
Très bien.
Et puis, il y a aussi Camilleri qui, elle, alors c'est encore un personnage, Martine. On la connaît, Martine Camilleri est très connue pour tous ses livres. Elle fait énormément de livres pour enfants à partir de petits objets ou de matières recyclées, que ça soit les couvercles de bouteilles de lait, que des petits animaux dans les pochettes surprises. Mais tout un tas de choses. C'est Martine est capable de faire aussi bien des livres que des films. D'ailleurs, elle est en train de, en ce moment, de faire toute une série de films d'animation pour Canal+, qui ont même été achetés par la Warner, a priori. Bon, elle m'en voudra peut-être de dévoiler ça. Mais j'ai vu, au moment de l'accrochage, ces petits films absolument géniaux. Et puis, c'est une artiste plasticienne qui travaille depuis toujours la photographie, mais à titre, je dirais, d'archives, d'inventaire. Puisque Martine s'intéresse à son environnement depuis toujours. Ça, c'est vraiment autour de sa problématique. Et donc, elle a créé une installation totalement folle, puisque ça lui a pris des années de récolte de quoi? Bah, de pierres qui lui font penser à un bout de camembert, à un steak, à du lard italien, du chewing-gum.
Et vraiment, et vous-même, avait pu...
Ah, tout à fait, oui. Et donc là, vous imaginez un très grand festin...
En pierre,
avec des objets rouillés. Donc, tout un tas de choses qu'elle a récupérées dans la nature pour en faire un festin paléolithique. Ça s'appelle le festin retrouvé. Mais à vrai dire, elle travaille au sens inverse, puisque après l'exposition, Martine va enterrer toutes ses pièces pour de bon dans son jardin, dans le jardin de son atelier. Mais là, elle montre pour la dernière fois, je dirais, cet inventaire-là, avec accompagné en plus. Donc, vous avez une grande installation qui fait trois...
Enfin, donc, ça
trois...
n'est pas à vendre.
Non, c'est pas du tout à vendre. C'est vraiment une sa collection personnelle. C'est un travail assez phénoménal, puisque ça lui a pris des années pour récolter, imaginer des pierres de couleurs différentes qui peuvent faire penser effectivement à une crépinette de veau ou un poisson pané. Donc il y a vraiment, bon, il y a énormément d'humour, les jeunes comme les plus vieux peuvent tout à fait jouer entre les photographies qui sont présentées autour de ce grand buffet qui lui-même est au sol. Vous avez tout un tas de vitrines avec les photographies et donc avec les, un petit peu comme un travail de muséologie avec donc les légendes de chaque pierre qui permettent de le retrouver après dans le festin et de comprendre comment ça marche. Donc c'est un petit peu aussi un jeu de devinettes, c'est assez ludique.
Oui.
On a testé en tout cas pendant le vernissage, parce qu'il y avait déjà des enfants, mais aussi les adultes, je pense qu'il y avait beaucoup de plaisir à regarder ça. Après c'est aussi l'histoire de la préhistoire et comment finalement nous mangeons de plus en plus de produits préfabriqués plutôt qu'une salade où on n'a pas de poisson, on a du poisson pané, par exemple. Donc il y a tout ce jeu sur l'industriel, sur la nourriture industrielle et cette mise en perspective jusqu'à la préhistoire, puisque eux mangeaient que des produits naturels.
Oui, donc vous nous faites rêver et on peut rêver donc en allant voir cette exposition à Évreux.
Tout à fait.
Cette exposition qui a lieu donc jusqu'à, donnez-nous les dates vraiment.
Alors, elle a commencé il y a très peu de temps, vendredi dernier, par ce vernissage assez joyeux. Et puis, elle va durer jusqu'au 16 avril.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Thank you. Je suis toujours avec Christine Ollier et nous avons évoqué le trop-plein. Et j'aimerais bien également que vous évoquiez pour nous la médiation, parce que vous avez un souci de dynamisme et de rencontre, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous avez fait pour qu'il y ait cette rencontre entre le spectateur et également l'œuvre à regarder.
Alors c'est très simple en fait, dans l'idée, avec Anne Jayette, donc la directrice de cette école, c'est à la fois un centre d'art et une école donc d'apprentissage pour les enfants. Donc la Maison des Arts accueille tout au long de l'année des enfants de tout âge, hein, oui. Aussi bien les petits, les grands. Il y a même un programme de préparation aux écoles d'art, donc vous avez... Après le bac, une année de prépa pour les écoles de Normandie. Donc, c'est quand même un lieu très important. Et dans l'idée, Anne avait initié un programme destiné au jeune public à partir des expositions des ateliers de Beaubourg qu'elle reprenait à la suite et adaptait au lieu afin d'accueillir nombre de classes pour des médiations tout à fait spécifiques. Donc, dans ce cadre-là, moi, j'ai repris après Beaubourg, si je puis dire, ce programme. Et nous avons fait, il y a 2 ans, donc une première édition avec 3 artistes, pour le coup masculins, ce coup-ci, qui étaient 3 sculpteurs. Enzo Mianès, qui maintenant habite Le Perche et qui était devenu en résidence, Théo Bétain et Loïc Pantali.
Et on les voit dans Le Perche?
Oui, vous allez voir Enzo Mianès lors du prochain parcours.
Oui.
Loïc Pantali va bientôt s'installer et vous pourrez voir...
S'installer aussi dans Le Perche.
Tout à fait. Et ce sont des artistes qui sont venus en résidence. Donc, il y a une connexion entre Le Perche et ce que je peux faire à Évreux, puisque l'idée était de développer donc un programme autour de la sculpture et autour surtout de tout ce qui est récupération. C'est pour ça que ça s'appelait « récupération poétique ». Théo Bétain travaillant plutôt le bois, Enzo Mianès, lui, a cette particularité de récupérer des objets, et en l'occurrence, pour cette exposition-là, c'était des objets tranchés au millimètre, donc une sorte de mise à plat de volume.
Mais quelle sorte d'objet ?
Tout, une théière, un arbre,
une
cruche.
Une théière tranchée.
Tranchée, imaginez le profil d'une théière, comme un profilé.
Ah oui.
Donc c'est assez, complètement, ça décale les choses d'une façon assez extraordinaire. Théo Bétain, lui, récupère aussi bien du bois dans la forêt que des portes et des fenêtres pour en faire des sculptures monumentales.
Et comme sculpture, donnez-nous des exemples.
Comme sculpture, ça peut être un escalier infini, comme il a présenté à la Biennale de Dakar, qui faisait plus de 15-30 mètres de haut. Peut être, comme il avait présenté ici, une maison, une sorte d'inspiration de maison guyanaise sous pilotis, des choses très différentes.
Et une maison guyanaise, qu'est-ce qu'il y a de particulier ?
Une maison guyanaise, elle est de forme très pentue, sur pilotis, puisque c'est les maisons amazoniennes, tout simplement.
Oui.
Et puis Loïc Pantali, qui est plus sur la sculpture mouvement, donc qui peut faire penser par exemple à Tingeli, mais d'une façon très différente.
Ah oui.
Donc on est sur de la sculpture machine. Donc là, on était sur un programme qui permettait de découvrir tout ce qu'était la notion de sculpture, de volume, de vocabulaire au niveau de tout ça. Bon, et imaginez qu'il y a eu quand même une 30aine de réservations de classes pour cette exposition, ce qui est en nombre d'enfants est très important. Donc la Maison des Arts derrière va à un médiateur qui accueille toutes ces classes avec les professeurs et leur permet de développer un programme pendant l'année scolaire autour de ces expositions. Donc oui, c'est très important. Et moi, ça me passionne. La prochaine édition sera autour du règne animal. Et là aussi, bon, c'est un peu trop tôt pour parler des artistes, mais on va travailler à la fois sur l'univers, et c'est à la demande de la directrice, donc on se met d'accord sur une thématique. Là, c'était tout ce qui était alimentaire. Et donc, au départ, la carte blanche était tout autour du recyclage. J'ai voulu décaler, avoir une niche un peu plus intéressante. Et en partant donc de ce fameux festin retrouvé de Martine Camilleri, en pensant à Carole Descordes autour de l'histoire de l'art, et en rajoutant Muriel Joumer, qui apporte tout ce vocabulaire autour de la céramique et du volume. Et... Ça, c'est un problème qui m'intéresse beaucoup. Je pense que, par exemple, les musées canadiens, américains, mais je crois même qu'il y en a en Allemagne, on a des musées pour enfants. En France,
c'est... On n'en a pas pour enfants en France.
En France, on n'en a pas du tout.
C'est quelque chose de nouveau que vous allez créer, pour dire.
Peut-être pas, mais en tout cas, je travaille autour de cette idée-là. Un de mes amis mécènes du programme Chant des Impossibles a lui-même fait des films avec des artistes dans les classes, avec les enfants. Il a créé le fonds de dotation iArt, qui est très important et qui va amener de l'art aux enfants, et donc avec une rencontre tout à fait particulière avec les artistes. Moi, personnellement, je travaille à partir de résidences. Je fais venir des artistes. Ça peut être aussi des artistes résidents dans le Perche. Hein.
Parlez-nous des résidents dans le Perche.
Martin Camilleri fait un travail très important autour de la médiation. Enzo Mianès vient de terminer un programme pédagogique grâce au soutien de la DRAC Normandie qui s'appelle Résidence Jumelage, où il a passé donc 3-4 mois dans les écoles, dans une école.
Où ? Quelle école ?
Alors, je crois que c'était l'école de Condo.
Oui.
Je suis pas absolument sûre, mais je crois que c'est ça. Mais en tout cas, le programme était extraordinaire puisque Enzo est sculpteur, Enzo Mianès est sculpteur, mais il est aussi musicien. Donc, il a développé tout un travail de sculpture en demandant aux enfants et en aidant, bien sûr, les enfants à créer des sculptures assez dadaïstes, faites d'objets recyclés qu'ils avaient trouvés, qu'ils avaient choisis. Et regardez sur le Facebook Enzo Mianès, mais aussi sur celui du Chant des Impossibles, ça donne des résultats absolument extraordinaires.
À savoir ?
Ah ben c'est vraiment, il faut voir, c'est drôle, c'est super bien fait, c'est fait avec du scotch, avec rien, mais il y a des sculptures absolument géniales.
Mais est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on se rend compte que certaines sculptures représentent quand même quelque chose?
Ah ben elles représentent ce qu'elles sont, elles sont formidables, on est entre l'art, je dirais, de récupération qu'on peut trouver en Afrique, par exemple, puisque beaucoup d'artistes s'expriment à partir d'objets récupérés.
J'ai vu des très jolies femmes à partir d'un pneu de vélo.
Tout à fait. Par exemple, les masques africains qui sont faits à partir de jerrycan.
C'est ça.
Là, on peut avoir ce même genre de sculpture un peu faite de briques et de brocs, mais qui sont extraordinaires. Franchement, on n'est pas la première résidence jumelage en école, mais là, le résultat est franchement étonnant.
Alors là, il y a une exposition qui permet de voir ces travaux.
Alors non, parce que... Alors, on a failli la faire, mais on ne voulait pas... comment dire ? J'avais pas un grand lieu et on voulait pas défavoriser tel enfant pour tel autre. On pouvait pas présenter 90 sculptures puisque il y a 90 enfants qui ont réalisé.
Et vous n'avez pas voulu sélectionner.
Voilà. Était contre
la sélection.
Cet élitisme-là, d'autant que l'art, justement, est une expression libre. Et puis, il y avait des sculptures qui faisaient 5 mètres de long, quand même, d'après ce que j'ai compris.
Oui.
Il n'y avait pas que des... On ne parle pas de petits le cendrier pour maman. On parle vraiment de sculptures de toute taille, avec une grande liberté. Et en plus, ces sculptures sont des sculptures qui doivent jouer de la musique.
Ah !
Créer du son. Donc, on est vraiment dans l'idée... Alors, il va y avoir, je pense, un petit film par rapport à ça, puisque à la fin, il y a l'idée de composer... avec ces instruments, mais je crois que en tout cas les professeurs et les enfants sont absolument ravis. Enfin, moi j'ai beaucoup parlé avec l'artiste qui est absolument ravi d'avoir passé 80 heures donc avec les enfants, chaque enfant recevant quand même un enseignement avec une transmission du savoir pendant une vingtaine d'heures chacun. Donc c'est important. Ce sont des programmes importants. Et là, donc, à partir de là, entre ce que j'ai fait donc à la Maison des Arts et ces programmes de jumelage, j'ai décidé, grâce aussi à mon ami mécène qui a fait la fondation iArt, de travailler sur l'idée de résidence, donc atelier, avec en impliquant les profs et les élèves dans le jury de présélection. Cet après-midi, on va à l'école de Berduy, donc... avec nos dossiers sous le bras d'artistes dont nous avons reçu des dossiers et qu'on a interviewés d'une façon préalable, afin de pouvoir impliquer dès le départ le prof et les élèves pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes l'artiste qu'ils préfèrent et qui leur semblera le plus adapté à leur propre programme.
Et après, on pourra voir dans l'école de Berduy, par exemple,
tout à fait.
Travail.
Tout à fait. De toute façon, il y a toujours un rendu des élèves dans les
écoles.
Mais
oui, c'est
toujours.
Ça, oui.
Mais là, on va doubler d'une résidence de création qui permet donc à l'artiste de travailler avec les élèves, mais aussi de passer du temps avec un budget pour créer sa propre exposition personnelle à la suite de ça. Donc à partir de l'année prochaine, on aura un programme un peu similaire à la Maison des Arts qui permettra donc à la fois de faire un travail dans les écoles et puis après de solliciter et de faire tout un travail de médiation avec les autres écoles pour qu'elles puissent venir voir le résultat à la fois de l'artiste et des élèves, pourquoi pas, au Moulin Blanchard, au Champ des Impossibles.
Et alors la résidence de ce sculpteur ou de cet artiste, elle va être à côté de Berduy,
elle
dans
est
Berduy
au champ de... Non, elle sera à Père-Champ-Nocée, au Champ des Impossibles, au Moulin Blanchard. Et donc, avec un financement à la fois Drac Normandie et de mon ami Amaury, qui donc participe allègrement depuis très longtemps d'ailleurs à tout ce que je peux produire en termes artistiques
au
niveau du champ.
Alors peut-être ce serait bien de nous parler un petit peu du Moulin Blanchard pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je sais que dans le Perche maintenant vous êtes très connu, mais quand même.
Oh, très connu, n'exagérons pas.
Ah, si, vous avez fait beaucoup de travaux et beaucoup de gens vous ont suivi. Donc
tout à fait. D'ailleurs, en ce moment, on a lancé avec, j'invite ceux qui nous écoutent, donc, à contacter la Fondation du Patrimoine, puisque la Fondation du Patrimoine a lancé un appel aux dons, un toit pour le Blanchard, puisqu'il y a énormément de toitures. Malheureusement, on avait tout le budget prêt grâce au soutien de la Fondation Patrimoine et des collectivités territoriales pour réaliser la rénovation de la totalité des toitures, ce qui est quand même important. Le Moulin Blanchard, c'est un ensemble de bâtis.
Oui, c'est ça.
C'est une très grande ferme avec un moulin ancien, mais aussi avec tous les bâtiments, ferme, grange cathédrale. C'est là où il y aura la Maison des Artistes. Et donc, on a malheureusement, les matériaux ont augmenté et il nous manque pas beaucoup. Il nous manque 20 000 euros, c'est pas énorme, mais donc on vous invite à nous aider donc en envoyant un chèque Fondation Patrimoine Moulin Blanchard, si vous le pouvez. C'est vraiment très important et toutes les informations sont sur le site de la Fondation Patrimoine et sur le site, bien sûr, du Champ des Impossibles.
Oui, parce que Moulin Blanchard, donc il y a quand même, enfin, à vous entendre, tout est à restaurer. Non, il y a quand même des choses qui existent. Alors parlez-nous de ce qui existe vraiment.
Alors ce qui existe, ce sont des bâtiments importants, donc cette ferme. C'est aussi un jardin de sculpture qui est en train de se mettre en place. Là, on vient de construire une première très grande sculpture de plus de 12 mètres de haut, avec un financement du Fonds Régnier pour la création, un autre fonds de dotation.
Et quel est le sculpteur ?
Sylvain Ristori, venez voir, on a un arbre, mais un arbre contemporain dans le paysage du Perche, c'est très beau, et ça marque un petit peu, c'est un peu le phare du Champ des Impossibles aujourd'hui.
Et alors, le Champ des Impossibles, donc il y a cela, que peut-on voir encore ?
Alors, on pourra voir donc de mai à septembre des expositions, le parcours art et patrimoine en Perche du 7 mai au 12 juin et du 25 juin au 19 ou 20 septembre, vous aurez donc un cycle sur le paysage composé avec les projets des étudiants de l'école de Versailles qui ont travaillé toute l'année sur le futur jardin de sculpture et les entourages du Moulin Blanchard.
Donc un cycle de conférences ?
Également.
Eh bien, un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiocranciel.fr. Christine Ollier, à bientôt pour d'autres émissions.
Merci beaucoup, Christiane Blain.